C'est vraiment édifiant de voir ce que Dieu fait concrètement dans la vie des gens. Et puis, une des choses que je peux témoigner, que moi je vis aussi, que Mimi a nous a raconté, c'est le combat spirituel. Je pense que quand on veut faire des choses pour Dieu, Satan vient nous mettre des bâtons dans les roues. Puis c'est un bon indicateur, spirituellement parlant, qu'on est sur la bonne voie, qu'on est en train de faire du tort dans le monde des ténèbres. Mais prions pour que ce soit Pasteur Michel, que ce soit pour les anciens, pour moi, pour Mimi, pour toutes les personnes qui sont impliquées significativement dans l'Église, parce que l'ennemi attaque là. L'ennemi attaque parce que il y a une direction qui est donnée et des initiatives sont prises. Donc, n'oublions pas de prier, d'intercéder pour nos leaders. Amen. Good. Bon, je me suis tout préparé, mais j'ai oublié en fait mes notes. OK. Pause. Prenez le temps, peut-être 2-3 secondes pour vous saluer les uns les autres. Je trouve mes notes, puis je reviens. Bon, ben, OK, je les ai trouvées, ils n'étaient pas trop loin. Amen. Aïe. D'accord. Donc, j'ai une question pour vous. Avez-vous à cœur la croissance de l'Église? Avez-vous à cœur la croissance de l'Église? J'ai à cœur la croissance de l'Église. Et je viens tout juste de lire un livre passionnant que j'ai dévoré en 2 jours. Et je suis pas un lecteur rapide, je vous le dis. Je lis beaucoup, mais je lis lentement. Mais ce livre-là, je l'ai dévoré. Et c'est le même auteur que le livre sur les dons spirituels dont je me suis principalement inspiré pour la formation. Mais cette fois-ci, c'est le titre du livre, c'est « Le développement de l'Église » de Christian Swartz. Et peut-être que quelques-uns d'entre vous l'avez lu. Mais « Le développement de l'Église », extraordinaire. Un livre qui veut aider l'Église à croître, à grandir. Et une des choses qu'on apprend dans ce livre-là qui est vraiment intéressante, c'est qu'il faut qu'on se donne des bons objectifs. Puis un des mauvais objectifs qu'on peut se donner, c'est justement de se dire qu'on veut un objectif de croissance ou de quantité, par exemple. Doublons l'Église d'ici 6 mois. Ou dans le mois de septembre, on veut 10 baptêmes. Des objectifs quantitatifs comme ça, ne sont pas une bonne chose parce que ce sont des objectifs sur lesquels, ultimement, on n'a pas de contrôle. C'est Dieu qui fait le travail dans le cœur des gens et nous, on doit se donner des objectifs de qualité. Et lorsque l'Église va avoir dans plusieurs domaines, elle va vivre de la qualité, la croissance va venir d'elle-même. Dieu a institué le monde d'une façon telle qu'il le régit selon des principes divins, que quand ces principes sont respectés, la croissance se fait. Souvent, dans la parole de Dieu, des images empruntées au monde de la biologie sont utilisées. Par exemple, on dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens que, en parlant des chrétiens, qu'ils sont le champ de Dieu. Jésus dit que le royaume de Dieu est comme une semence qu'on met en terre, etc. Tout ça, c'est des images empruntées à la nature, au monde de la biologie. Et au même titre qu'on ne pourrait pas nous-mêmes faire grandir quelque chose de biologique, nous, on ne peut pas faire grandir l'Église de nous-mêmes. Cependant, au même titre qu'on peut mettre la semence dans des bonnes conditions pour que la croissance se fait, l'Église peut être dans des bonnes conditions pour que la croissance se fait. Et c'est vraiment intéressant, l'auteur du livre avec son équipe a fait un sondage de 1000 églises dans 32 pays. Et puis, il a interrogé des églises qui étaient en croissance, comme d'autres qui étaient en déclin. Des églises dans des pays où est-ce qu'il y a vraiment un réveil, comme la Corée du Sud. Et d'autres églises qui sont dans des pays qui sont vraiment en déclin, comme par exemple en Europe. Et il a sorti 8 principes qui sont des critères de qualité, des signes de santé. Et lorsqu'ils sont respectés, la croissance se fait naturellement parce qu'elle respecte les principes qui viennent de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un de ces 8 critères-là. Je vous fais grâce, je ne parle pas des 8, mais peut-être que Dieu voulant, dans le futur, je continuerai sur les autres critères. Mais un de ces critères-là, c'est ceci. Ouais, merci. Une spiritualité enthousiaste. Un signe de santé. Et ce matin, mon frère a cité un passage il a dit que Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière, en faisant référence à une parole de Jésus. Et c'est le seul endroit dans toute la Bible où est-ce qu'on parle que Jésus a eu du zèle. Et c'est dans le contexte où il a été dans le temple et il a fait un gros ménage. Il a chassé les vendeurs du temple, il a renversé les tables, etc. C'est le seul endroit où est-ce qu'on voit que Jésus a eu du zèle. Le mot spiritualité n'est pas dans la Bible. Et le mot enthousiasme n'est pas non plus dans la Bible. Mais il y a un mot de quatre lettres que je viens juste de dire qui est dans la Bible, puis qui fait vraiment référence à ça, à une spiritualité enthousiaste, et c'est le mot zèle. Donc, c'est sur ça que je veux vous parler ce matin, sur ce critère de qualité, sur ce signe de santé. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Apocalypse 3. On va lire les versets 14 à 22. Apocalypse 3, on va lire les versets 14 à 22. Avant, j'aimerais ça faire une petite mise en contexte du livre d'Apocalypse. C'est le dernier livre qui a été écrit dans le Nouveau Testament. Il a été écrit environ autour de l'année 95. Donc, c'était plus la première génération qui était en place. C'était pas ceux qui ont vu les miracles de Jésus. C'était pas ceux qui ont assisté à ses guérisons, etc., qui ont entendu eux-mêmes de leurs oreilles ses enseignements. C'était une deuxième génération pour la plupart. On va voir qu'il y a un problème majeur qui revient dans chaque église, ou du moins dans plusieurs de ces églises. Et certains thèmes clés qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est par exemple la persévérance face à la persécution, l'adoration qui est un choix vraiment en deux options. C'est pas compliqué, t'as Dieu et t'as Satan. Et on est en adoration envers une de ces deux personnes. Et ensuite, on voit vraiment que Jésus est le Seigneur de l'histoire, qu'il est souverain. Malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les circonstances négatives, même certains étaient mis à mort. Tantôt, Mimi a cité un passage qui disait « ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas. » Je suis contente qu'elle n'ait pas lu l'Apocalypse, parce que dans l'Apocalypse, ça dit « ils te feront la guerre et ils te vaincront. » Ça veut dire « prépare-toi, tu vas mourir. « Préparez-vous à mourir. » Fait que la question de la persécution est vraiment réelle. La question que malgré ça, malgré le fait que tu vas mourir, Jésus est au contrôle. Jésus est le Seigneur et puis il va accomplir de grandes choses, même si c'est difficile à voir. Ça, c'est les grands thèmes. On va lire la lettre, qui est la dernière lettre qui est adressée à une église. Il y a 7 lettres dans les chapitres 2 et 3. Qui sont adressés à des églises. Chaque lettre a la même forme. Au début, il y a comme un peu l'adresse. C'est écrit à qui? C'est écrit à l'église locale de tel endroit. Après ça, on parle de l'auteur. C'est de la part de qui? Et là, on cite une caractéristique de Jésus. Cette caractéristique de Jésus-là, souvent, s'applique à la situation de l'église, comme on va le voir. Après ça, on parle de l'état spirituel. Souvent, il y a des plus puis il y a des moins. Mais dans la lettre qu'on va lire, il n'y a pas de plus. Ça va mal. Après ça, il enchaîne avec des exhortations sous forme de commandements, puis de corrections, d'avertissements. Puis il finit toujours avec une promesse. Il finit toujours avec une note d'espoir et une note positive. Donc, c'est dans ce mode-là que Apocalypse a été écrit. Et puis, plusieurs d'entre vous êtes parents, et puis vous savez, tous les enfants ont comme un sixième sens pour savoir quand les parents, ils ont fini de se répéter, et là, ils parlent sérieusement. Là tu as intérêt à écouter. Et puis, que ce soit comme de dire le nom complet, c'est un hyperono. Je savais que ma mère ou mon père, là, ils étaient sérieux, puis c'était mieux d'arrêter de niaiser avec la POC pour parler à mon québécois, que ce soit un pas par en avant, là, avec des yeux menaçants ou un doigt comme ça. Il y a plein de signes que les parents font comme ça, qui font en sorte qu'un enfant sait que là, OK, là, je vais arrêter de niaiser. Mais dans Apocalypse, c'est comme un peu ça qu'on voit. C'est un livre qui, vraiment, est difficile à lire, parce qu'on voit que Jésus est sévère. C'est un livre qui est prophétique, et c'est comme les... Avez-vous déjà lu les prophètes dans l'Ancien Testament? C'est dur, hein? C'est négatif, il y a plein de jugements qui s'en viennent, puis rien va bien. Mais Apocalypse, c'est un livre prophétique, et puis c'est Jésus est dur à l'égard de l'Église, mais il va toujours parler des raisons pour lesquelles il le fait. Et puis, c'est des raisons qui sont bonnes, mais il va pas de main morte. Donc, on va lire ensemble Apocalypse 3, versets 14 à 22. Est-ce que quelqu'un voudrait lire à haute voix? Quelqu'un qui a une bonne voix portante, là? 14a, première partie du 14, c'est écrit à qui? Une église locale, celle de Laodicée. Par la suite, voici ce que dit, deux points, l'amène, ça c'est Jésus, des descriptions de Jésus, l'amène le témoin fidèle et véritable, auteur de la création de Dieu. Après ça, il y a l'état spirituel. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant, etc. Par la suite, on voit qu'il y a les exhortations au 18-19. Il s'attend à ce que l'Église fasse quelque chose, excusez-moi. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et par la suite, on voit la promesse à la fin. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. J'aimerais faire sortir trois choses dans ce texte-là. Mais avant tout, je vais faire une parenthèse concernant quelque chose que j'aime faire, que j'aime voir dans les textes. Puis c'est la Trinité. C'est le fait que nous avons un Dieu, nous croyons tous en un Dieu, mais qu'en ce Dieu-là, il y a trois personnes distinctes. On le voit dans ce texte-là, Jésus parle au verset 21, il dit « Moi, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père. » Et après ça, on voit l'Esprit. Il y a tout le temps comme cette triade-là, ce trio-là est tout le temps présent dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. La Trinité change des choses vraiment, fait vraiment la différence concernant des notions très importantes. J'en ai déjà parlé, c'est une petite parenthèse ici, mais l'unité dans la diversité, si c'est pas la Trinité, ça serait moins valorisé. L'amour et le salut, la Trinité, c'est vraiment, vraiment important. Et j'aime toujours ça, le souligner lorsque je le vois dans un texte, donc je vais juste le faire ici. Premièrement, voir comme Dieu voit. C'est mon premier point. Une des choses qui est fascinante, ou du moins, c'est pas fascinant dans le sens de positif, mais plutôt négatif, c'est que l'être humain est capable de s'auto-illusionner. Il est capable de se mentir à lui-même, et à force de se mentir à lui-même, il finit par se croire, alors que il devrait être bien placé pour voir la vérité. C'est pas le cas, il finit par se mentir. Et regardez les termes qu'on utilise pour Jésus. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Qu'est-ce que veut dire le mot Amen? Ainsi soit-il. Fait que, voici ce que dit celui qui sait, dans le fond, comment il en est. Comme, ainsi soit-il, c'est comment en est-il de la situation? L'Amen, c'est le véritable, celui qui sait comment ça se passe en ce moment-là. Il sait comment tu vas. Il sait comment ton couple va. Il sait comment ta famille va. Comment tes situations financières vont, il n'y a rien qui ne sait pas. Et regardez par la suite, le témoin fidèle et véritable. Quand il parle la réalité, il parle vraiment de ce qui se passe pour vrai. Puis il dit pas des choses qui ne concordent pas avec la vérité. Il dit par la suite, je connais tes œuvres. Et ce qui est le plus frappant, c'est ça, tu dis, mais tu ne sais pas que tu es. Tu dis ça, je suis riche, je me suis enrichi, je suis en santé, etc. Mais la réalité, c'est ceci, elle est autre. Et puis, l'Église de Laodicée, son plus grand problème, c'est pas qu'elle est malheureuse, qu'elle est nue, tout ça. C'est qu'elle est pas capable de voir son état spirituel. Elle est pas capable de voir qu'elle ne va pas bien. Ce que Dieu sait à propos de moi, est infiniment plus important que ce que les autres pensent à propos de moi. Pourquoi est-ce qu'on finit par nier la réalité, notre propre réalité, comme l'Église de Laodicée, c'est qu'on se préoccupe plus de ce que les autres pensent de nous que ce que Dieu sait de nous. Et puis, on finit par jouer un masque, avoir un masque à long terme, et on finit par croire même que la réalité, c'est ce masque que l'on porte, mais la réalité est tout autre. Dieu connaît notre réalité, peu importe dans quel domaine, et puis, la solution à ce problème-là, c'est d'être vrai. C'est tout simplement de dire, Seigneur, ça ne me tenterait pas de venir à l'église ce matin. C'est un problème, je sais, mais Seigneur, c'est comme ça, je peux rien te cacher. Puis viens régler ça. Viens me donner plus de zèle, de motivation. Ou Seigneur, je sais pas, ça ne me tente pas de ça, ou il y a ça qui se passe dans ma vie, j'ai tel problème. Soyez vrai. Et puis, le Seigneur, lui, le voit de toute manière. Et puis, ne poursuivez pas plus longtemps dans cet auto-illusionnement. Je ne sais pas si vous regardez les nouvelles, mais avez-vous entendu parler du maire de Toronto? Pour ceux qui n'ont pas entendu parler du maire de Toronto, c'est un maire qui accumule les scandales par-dessus les scandales, mais qui ne veut pas démissionner. Il veut garder son poste. Et puis, par exemple, il y a eu une photo qui est sortie dans les médias où est-ce qu'il consommait du crack ça semble être une gang de rue, là, mais il consommait du crack, tu sais, devant une maison très peu fréquentable. Ça, c'est une des choses. Une autre chose qui est sortie plus tard, c'est qu'il y a des problèmes d'alcoolisme. Lui, il nie tout. Il nie toujours tout. C'est pas vrai. Il s'abstente des rencontres municipales. Il y a des affaires à faire, mais il n'est pas là. Il va faire d'autres choses plutôt. Il va voir une équipe de football ou alors qu'il y a des rencontres d'administration importante, d'organisation. Il n'est pas là. Ses collègues dans son équipe démissionnent en groupe. Par deux, trois, ils démissionnent. Puis toujours, il nie qu'il y a des problèmes. Il nie constamment. Mais c'est vraiment, sincèrement, pathétique. Même des Américains se moquent un peu du maire de Toronto parce que c'est tellement évident qu'il est corrompu ou qu'il y a des problèmes majeurs qui font en sorte qu'il ne peut pas gérer une ville ou la plus grande ville du Canada. Tout le monde le sait, mais lui, il nie tout, puis il continue toujours. Puis, peu importe le nombre de scandales qu'il accumule, il est encore en poste aujourd'hui. Il y a des personnes qui font la grève devant l'hôtel de ville, mais c'est encore là. C'est scandaleux, hein? Mais c'est ça le taux d'illusionnement, c'est que c'est évident qu'il y a des problèmes dans certains domaines, mais non, c'est beau, tout est correct, puis on met la poussière en dessous du tapis, puis on passe à autre chose. Fait que ça, c'est le premier point, voir comme Dieu voit, être vrai. Juste, on peut pas régler de problème si on n'en admet pas qu'il y en a un. Deuxième chose que j'ai remarqué dans ce texte-là, j'ai intitulé mon point « Faire du commerce céleste ». Le deuxième titre qu'on met à Jésus, c'est « L'auteur de la création de Dieu ». Il y a un verset qui dit dans le psaume « À l'Éternel, le monde et ce qu'il renferme, les gens et ceux qui l'habitent ». C'est à Dieu, tout ça, c'est à Dieu. Et puis, c'est intéressant que dans le texte, par la suite, on voit que les Laodicéens, ils croient, eux, qu'ils ont besoin de rien. Ils sont enrichis, ils ont de l'or, et tous les éléments qui sont cités dans le texte d'Apocalypse, c'est des choses pour lesquelles la ville de Laodicée est reconnue comme pour avoir, comme étant des commerçants d'or, de collyres pour les yeux. C'est des choses que c'est comme ce qui fait la renommée de la ville, c'est ces choses-là. Ils sont connus pour, tu dis qu'il n'y a ni froid ni bouillant, dans la ville, il y a une rivière, puis en fait, la source d'eau remonte plus loin, et puis, rendue à cet endroit-là, l'eau, elle est tiède, et elle ne sert à rien. Mais toutes les caractéristiques donné aux Laodiciens, c'est comme des caractéristiques que leur ville possède. Et puis, ils disent qu'ils ont besoin de rien. Mais Jésus lui dit qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Fait qu'eux, ils voient matériellement comment ils sont bien nantis, mais le Seigneur lui regarde spirituellement comment ils sont pauvres et ils ont besoin de plusieurs choses. Et je pense que le deuxième point là, où j'écris, tu dis « je n'ai besoin de rien », ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir en tant que chrétien. Parce que de nos jours, la majorité de nos contemporains pensent qu'ils ont besoin de rien, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Non. Vous êtes d'accord? Pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Dieu, c'est pas pour ceux qui ont besoin de béquilles. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Et puis, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Dieu? Moi, si une personne me dit ça, je dirais, ben, OK, redonne le souffle que tu viens de prendre dans tes poumons, redonne-le à Dieu tout de suite, puis redonne le battement de cœur que tu viens d'avoir. Dieu, c'est lui qui te donne ces choses-là. Tu as besoin de Dieu pour vivre. Là, la personne pourrait dire, oui, mais bon, à part le fait qu'il m'a créé, je n'ai pas vraiment besoin de lui. T'sais. Il y a un point de vue, je pourrais dire philosophique, là, ou croyant, là, c'est une croyance, dans le fond, qui s'appelle le déisme. Je crois qu'il y a un Dieu créateur, mais que Dieu n'intervient pas dans le monde, qu'il y a des lois qui régissent toute la nature, puis que Dieu a comme un peu créé, puis comme un ballon de soccer, il a kické, puis il s'est viré de bord, puis il est parti, puis il n'intervient pas dans le monde. Puis ça l'arrange beaucoup, ces personnes qui disent, ben moi, j'ai pas besoin de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Dieu à part que pour exister? Que je vous laisse la chance de répondre. J'ai réfléchi à ça, j'ai quelques éléments de réponse, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Dieu, excepté que pour exister? Pourquoi? Sommes-nous capables de pardonner humainement dès que ça devient moindrement sérieux, l'offense qui a été faite? Là? C'est bien difficile, avec notre désir de justice. Ah ouais, OK. Ouais. Bon, j'en donne le deuxième. Inconsciemment, être pardonné, mais pardonner, capacité de pardonner. Oui, Salah? On a besoin de Dieu pour retourner à Dieu, pour aller au ciel, puis c'est bon. Oui, Salah? Dieu, c'est ça. La mort est un point final qui vient annuler tout le reste. C'est l'Ecclésiaste, vanité des vanités. La mort vient toujours. Oui, Donatien? Amen. Oui, absolument. Une dernière personne? Ah, deux? OK. La vie en abondance, la vraie vie. Marc, tu avais levé ta main?
Oui.
Wow. C'est un bon point. C'était mon point précédent, puis je n'y avais même pas pensé. Mais wow, c'est super. Même. OK, oui, allez-y. Ouais. Ah. Amen. Amen. Ouais. Oui? C'est ça, si une tragédie frappe dans notre vie, vers qui qu'on se tourne, hein? Quand on est plusieurs raisons. Puis je trouve que c'est super intéressant de faire l'exercice en assemblée. Puis même j'aurais le goût de prendre des notes, puis de continuer presque écrire un livre, puis le donner à nos contemporains, parce qu'ils ont besoin d'entendre ce qu'on est en train de se dire ici. Ils ont besoin d'entendre, de réentendre qu'ils ont besoin de Dieu, même s'ils ne le voient pas, la réalité c'est qu'ils en ont besoin. Pour toutes les raisons qu'on a données, pour être libéré de notre conscience qui nous accuse à cause de tout le mal qu'on a fait, pour apprendre à aimer, pour toutes les raisons, pour avoir de l'espérance, avoir un sens à notre vie. Moi, j'avais écrit ici, le sens à la vie, je l'avais écrit, puis j'ai dit ceci, nous avons été créés pour lui. Fait que, on a besoin de lui pour avoir une satisfaction existentielle. Tant aussi longtemps qu'on est en dehors de Dieu, on ne sera pas satisfait. On va toujours essayer d'aller chercher quelque chose dans le monde pour nous satisfaire, pour qu'on soit heureux. Et là, ça va durer un temps. Et après ça, on se tanne. Hein? Et puis là, on va passer à quelque chose d'autre. De même, de fil en aiguille, puis on va toujours marcher d'insatisfaction à insatisfaction jusqu'au jour de notre mort. Et puis, On a été créé pour Dieu. On a été créé pour qu'on soit en communion avec lui. Puis tant si longtemps qu'on ne le connaîtra pas personnellement, on va vivre cette insatisfaction-là existentielle. J'avais écrit d'autres choses comme vous avez dit. J'ai écrit capacité de bien vivre, mais ça implique de pardonner, d'avoir de l'espoir. On n'a pas dit ça, mais le bien et le mal, hein, si Dieu n'existe pas, là, qui fait la loi? C'est-tu le maire de Toronto? Tout devient relatif. Si Dieu n'existe pas, le bien et le mal, là, c'est des concepts purement relatifs. Puis d'après moi, ça n'existe plus. Fait que le bien et le mal, c'est des notions qui existent parce que Dieu incarne le bien. Panoplie de raisons pour lesquelles on a besoin de Dieu. La solution que le Seigneur propose, faire du commerce avec lui plutôt qu'avec le monde ambiant. Sors de ton monde là, socio-économique là, de ta ville, là, puis réalise qu'il y a une autre réalité qui est la réalité spirituelle. Puis sur ce plan-là, là, t'es vraiment pauvre. Sur ce plan-là, là, t'as vraiment besoin de venir me voir puis de faire commerce avec moi. Puis je trouve ça drôle parce qu'il dit tu devrais, je te conseille d'acheter de l'or, des vêtements blancs, tout ça. Puis j'imagine que les Laodicéens, ils viennent vers Jésus puis ils disent, OK, Seigneur, on va t'en acheter, tu sais. Ils vont payer avec quoi, ça? C'est comme, c'est rien, là. C'est par grâce, là. Il va tout te donner gratuitement, mais va le voir, tu sais. Toute la terre est à lui. L'auteur de la création de Dieu, tout lui appartient. Fait que tu vas pas le payer avec rien, c'est par grâce. Mais vas-y parce que t'es pauvre. Puis, mon troisième point, qui est le point en fond principal que je voulais vous parler, avoir du zèle. Une petite définition. Avant, je pense que c'est ça, je vais juste écrire le verset qui contient ça. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. La raison pour laquelle il leur parle sévèrement, j'aime le voir, c'est parce qu'il les aime. Et puis, une des choses qu'on a vu à la fin, c'est que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis ça fait vraiment référence à 1:3, là. Apocalypse 1:3 qui dit « Heureux celui qui écoute les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Donc, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il veut qu'on soit heureux qu'il nous parle comme ça. C'est sa motivation. C'est pas parce qu'il prend plaisir à être dur, mais c'est parce qu'il a des bonnes motivations. Okay. Avoir du zèle, c'est avoir de l'ardeur, de l'empressement, du dévouement. Puis c'est mettre ça au service d'une cause ou d'une personne ou à l'accomplissement d'une tâche. Les synonymes, c'est passion, enthousiasme, ferveur. Il manquait de passion, d'enthousiasme dans cette église-là. Les gens faisaient les choses par devoir. Mais ce n'était pas la seule église. Dans les 7 églises dans l'Apocalypse qui ont une lettre de Jésus, il y en a 3 qui ont le même problème. Regardons Éphèse dans Apocalypse 2:4. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. » Ça ne dit pas le mot zèle, mais ça se ressemble, right? Ça se ressemble. Du zèle, c'est d'avoir de l'empressement, de la passion, de l'amour, dans le fond. Apocalypse 3, verset 1. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Un nom qui avait une différence entre ce qui est présenté et ce qui est en réalité. Rappelle-toi donc comment tu as entendu la parole. Comment on était quand on a entendu la parole? Hein? On était passionnés, on était zélés. Pour les personnes qui ont fait comme une réalisation, là, un moment précis dans leur vie, là, ça c'est sûr. Il y avait ce zèle-là, il y avait cette passion, cet enthousiasme-là, rien n'était un fardeau pour le Seigneur. Tout était comme, on avait une motivation, on était poussé à l'intérieur. Et puis le Seigneur lui dit, rappelle-toi de ça. Et là, notre passage, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, et donc du zèle et repens-toi. Donc, c'est un problème qui est généralisé, du moins à ce moment-là. C'est le bon moment de nous poser la question, comment nous on va au niveau de notre spiritualité? Si on a une spiritualité enthousiaste, est-ce qu'on aime venir à l'église? Est-ce que quand on dit, on prend-tu un temps de prière, c'est quelque chose qui a un non à l'intérieur? Ou c'est comme, Ouais, ça va me faire du bien de prendre un temps avec toi dans la présence de Dieu, puis on y met toute notre âme, on prie vraiment. On le voit dans une rencontre de prière, hein, s'il y a du zèle ou pas, ça apparaît vite dans une rencontre de prière. Ça, c'est un des points que lui, il dit. Il dit, si vous voulez voir si une église a une spiritualité enthousiaste, mettez-les ensemble, là, temps de prière, là, puis on va voir. Puis, on peut tous le ressentir, que ce soit dans des cellules ou quand il y a de l'enthousiasme ou pas. Puis je veux prendre le temps de dire qu'on a des personnalités différentes, je suis conscient, hein, on n'est pas tous extrovertis, il y en a qui sont introvertis. On va exprimer notre enthousiasme de façon différente, et puis c'est parfaitement correct, mais quand même, on peut voir ce qu'a une personne, même si elle est plus calme là, et plus réservée, tu le vois quand même si elle a de la passion ou pas, là, si elle a de l'intérêt ou pas. J'ai un ami, une fois, qui est venu chez moi, puis on était sur le balcon, on discutait, puis là, elle s'était juste dans le salon. Puis là, à un moment donné, plus tard, je pense que c'était le lendemain, elle me dit « Hey, Carl, étais-tu choqué hier? » Là, « Non, non, pourquoi tu poses cette question-là? T'es parfaitement de bonne humeur. »« Ah, parce que la manière qu'il parlait, il avait l'air choqué. » Je dis « Non, non, il parlait avec passion. Je connais, c'est ça, c'est la manière que ça sort, là. Il parle avec conviction, là, mais il... C'est comme pour lui, ça sortait comme ça, mais j'imagine que ce n'est pas toujours comme ça. Là. Des fois, ça peut être plus... mais je le connais, puis c'est ça. Lui, ça avait sorti comme ça. Donc, mais peu importe comment on vit cet enthousiasme-là, l'avons-nous. Tu sais. Puis rapidement, parce que là, on a aussi la Sainte Sainte, mais des tueurs de zèle, ce qui vient éteindre notre zèle, le péché. Quelqu'un a dit, je pense que c'est Moody, qui a dit « La Bible te gardera loin du péché ou le péché te gardera loin de la Bible. » Le péché, la Bible te gardera loin du péché ou le péché te gardera loin de la Bible. Mais c'est la même chose avec notre enthousiasme, notre zèle. Hein? Si on a quelque chose de pas réglé, on le sait, puis c'est ça, ça vient jeter de l'eau sur la flamme. Fait que, encore là, la solution, être vrai avec le Seigneur. Des blessures non guéries. Parfois, peut-être certains d'entre vous avaient vécu des choses vraiment difficiles, puis c'est quelque chose qui vous pouvez avoir de la misère à comprendre pourquoi Dieu a permis ça dans votre vie, puis ça peut peut-être même vous créer de la colère à l'égard de Dieu. Des choses vraiment pas faciles, certaines personnes vivent, puis ou juste des fois un conflit entre deux personnes, tu sais, puis ça c'est pas réglé, puis ça peut éteindre le zèle, ça peut l'ennemi peut se servir de ça pour éliminer le zèle d'une personne. Encore là, aller vers le Seigneur qui est notre guérisseur, c'est lui notre grand médecin. Bon, l'inactivité spirituelle, tout le temps, faites une étude de mots sur le zèle, tout le temps le zèle, là, c'est pas juste comme une passion qui est assise, là, c'est bouillant, ça doit sortir. Jésus, il fait le ménage du temple. D'autres exemples dans l'Ancien Testament, ou même Paul dans le Nouveau Testament, où est-ce que Paul disait qu'il y avait un zèle excessif pour la tradition de ses pères, puis regardez, là, il partait de ville en ville pour tuer les chrétiens, il était vraiment... C'est un mauvais zèle, là. C'est un zèle placé à la mauvaise endroit, mais c'est un zèle qui était actif, là. Et son zèle dans le Seigneur était actif aussi. C'est un homme qui allait annoncer l'Évangile là où personne n'avait été. Dans l'Ancien Testament, Élie avait un zèle. Élie contre les prophètes de Baal. Mais encore là, c'est tout le temps comme ça passe à l'action. Donc, qu'est-ce qui stimule le zèle? Premièrement, connaître Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus, je ne peux pas vous demander de ranimer quelque chose que vous n'avez pas. Disons qu'une personne est passionnée par le hockey, puis ça fait des années qu'il n'a pas joué. Si je lui disais, hey, ça tente-tu de jouer une partie de hockey, probablement que oui, ça va éveiller quelque chose. Mais si une personne n'a jamais joué au hockey, il va dire, ben, c'est quoi ça, le hockey, tu sais? Donc, c'est sûr que de connaître Jésus à la base, peut-être que mon message passe par-dessus des nuages en ce moment parce que vous ne connaissez pas Jésus, mais connaître Jésus, c'est vraiment la base pour avoir du zèle. Puis, C'est comme si je vous disais, je vous donne 10 millions de dollars demain matin. Est-ce que vous allez être zélé pour ça, pour aller chercher, disons, je vous dis, c'était à Rouyn-Noranda, là où je viens. Je ne sais pas pourquoi ça me tente de vous envoyer là. Est-ce que vous allez avoir du zèle? C'est ça. Est-ce que vous allez avoir du zèle pour y aller si, disons, là, je vous donne mon billet de loterie, là, puis vraiment vous voyez que c'est gagnant, puis le 10 millions, il est là-bas. Vous allez tout de suite aller chercher. Mais dans le Seigneur, c'est ça qui se passe, mais spirituellement, on nous remet un montant qui est celui de nos dettes, là, de nos péchés, qui est un montant qui est incroyablement élevé, puis on nous dit, voici, t'es libre, je te redonne ta dette, t'es zéro. C'est sûr que la réaction, c'est vraiment de dire, wow, hey, merci Seigneur, puis il y a un zèle qui embarque. Donc, si vous ne connaissez pas Jésus, la prière, c'est que vous puissiez avoir une Bible et le découvrir au travers des évangiles. Si vous le connaissez, mais vous pouvez le redécouvrir. Et l'Apocalypse, je suis persuadé qu'elle a été donnée pour qu'on redécouvre Jésus. Parce qu'on nous parle de Jésus avec des images absolument incroyables. Et je trouve ça malheureux que beaucoup d'entre nous, on est comme un peu presque intimidés par le livre de l'Apocalypse, puis on l'étudie pas à cause de ça. Et moi, je veux vous encourager ce matin. Un petit livre, mais c'est en anglais, par exemple. Si vous voulez faire une étude d'Apocalypse, il est en spécial à 5$ là, sur christianbook.com, mais c'est un guide d'étude. Pose des petites questions, dit hey, va voir tel passage dans l'Ancien Testament, il y a un lien à faire là. Puis il te fait comprendre l'Apocalypse de façon toute simple et c'est vraiment, vraiment bon. Et je vous dis, moi je suis en train de redécouvrir Jésus, puis de puiser dans un livre biblique que j'ai très peu puisé dans ma vie chrétienne. Et c'est très, ça stimule le zèle, c'est comme wow, ok. Ça alimente la crainte de Dieu aussi, je peux vous dire. Faire la différence pour Dieu, le servir dans un domaine, là, vraiment, là, servir en fonction de nos dons, c'est un peu dans ce sens-là. Être bien entouré, la température ambiante. Si la majorité des personnes autour de vous sont zélées, probablement que ça va vous encourager à développer ça. Puis moi, je peux vous assurer que moi, PST, nous, on est bouillants. Là. Ah, vous ne voyez pas, hein? Ah! C'était 30 sur mon thermostat. La température ambiante, là. Et puis, aujourd'hui, ils disent qu'il va faire 38 avec la température ressentie. Okay, je vous dis qu'on est bouillant. Enfin. Je finis avec ça. Un verset qui dit que même Christ est mort pour qu'on soit zélé. Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Fait, comment va votre zèle, comment va votre amour, votre passion pour le Seigneur? Je vous invite à y réfléchir aujourd'hui, cette semaine. Et on ne peut pas doubler l'Église d'ici un an, ça ne dépend pas de nous ultimement. On peut travailler en sorte que cette Église soit une Église de qualité, que on soit en santé spirituellement, puis je ne suis pas inquiet que le Seigneur va faire le travail, puis qu'on va grandir, et puis prions Seigneur. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour cette révélation que tu as donnée à l'apôtre Jean. Et on te demande, Seigneur, de prendre toutes ces choses qui ont été dites, et par ton esprit, viens faire le travail que tu veux faire en nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, à enlever tueur de zèle et puis venir à toi, Seigneur Dieu, juste à admettre la réalité telle qu'elle est. Et puis, puisses-tu, Seigneur, venir animer cette flamme, ce feu que tu as mis en nous lorsque on t'a connu, Seigneur, et qu'on puisse être une église qui est dynamique, qui est vivante. Et merci encore pour ta parole qui est notre lumière, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.